Bonjour Kader Arif.
Bonjour.
On va parler histoire ce matin, Kader Arif, la libération de Paris, il y a 70 ans. Mais avant d'y venir, un mot de politique. Arnaud Montebourg a franchi la ligne jaune en remettant en cause la politique du gouvernement. Voilà ce que dit l'entourage de Manuel Valls. Kader Arif, est-ce qu'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, qu'il soutient, doivent démissionner du gouvernement?
Écoutez, moi je n'ai pas à répondre à la place d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon, parce que je sais que ce sont deux bons ministres. Que par ailleurs, ce qu'ils ont exprimé, c'est des choses qui sont déjà mises en place. Deux exemples. La réorientation de la politique européenne au regard de la situation aujourd'hui en Europe, c'est une demande qui est faite par la France, tant en termes de politique budgétaire qu'en termes de politique monétaire, et des avancées ont lieu dans ce domaine, et des alliés de la France sont manifestés aux côtés de la France pour demander une réorientation. Deuxième élément, le mix, si vous me permettez cette expression, entre politique de l'offre et politique de la demande. C'est ce qui est aujourd'hui mené à l'échelle de notre pays, et là, avec des exemples précis. Pacte de compétitivité et solidarité qui est mis en place, la possibilité de donner des marges aux entreprises, d'une part, mais de l'autre côté, une politique de la demande qui est aussi prise en compte, avec des propositions qui sont faites en termes de pouvoir d'achat, tant sur le plan fiscal, la baisse des impôts pour plusieurs millions de nos concitoyens, et en même temps, des mesures, même si elles ont été reprises par le Conseil constitutionnel, mais des propositions seront faites et sont à l'étude aujourd'hui, en ce qui concerne les cotisations sociales, pour permettre du pouvoir d'achat supplémentaire à nos concitoyens, et en particulier aux plus modestes. Donc vous voyez, rien de bien nouveau, j'allais dire, là-dessus.
Il n'y a pas de contradiction, selon vous. La semaine dernière, François Hollande réaffirme que sa ligne est la bonne, il demande du temps, les résultats vont venir, et voilà son propre ministre de l'économie qui le contredit. Mais, ça ne vous choque pas?
Mais ce n'est pas une contradiction. Je me méfie beaucoup de ce monde de politico-médiatique, si permettez l'expression.
Ah, c'est la faute des journalistes.
Non, j'ai pas dit ça. Vous savez bien que c'est pas ce que je pense et c'est pas ce que je dis. Mais la réalité, c'est ne faisons pas non plus un buzz pour l'idée du buzz là-dessus. Je veux dire, ils expriment des choses. On peut avoir là, on peut avoir des choses et on a le droit de s'exprimer sur faut-il réorienter. Ce que je vous dis là, c'est que cette réorientation, au regard de ce qu'est aujourd'hui la situation européenne, la prise en compte aujourd'hui d'un risque de déflation, la prise en compte aujourd'hui d'un manque de croissance dans une grande partie des pays européens et pays européens comme la France, l'Italie et l'Allemagne elle-même qui est touchée. Cette réorientation, la France l'a demandée et il y a des évolutions qui sont en cours. De la même manière, ce que je vous dis, c'est que oui, on dit qu'il y a une politique de l'offre. Cette politique de l'offre, elle est assumée aujourd'hui sur le plan gouvernemental. Elle a été rappelée et par le président de la République et par le Premier ministre. Mais en même temps, à côté de ça, il y a une prise en compte de la nécessité d'avoir une politique de la demande, d'où aussi des choix qui ont été faits, annoncés en ce qui concerne, j'allais dire, l'augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens sur les impôts. Plusieurs millions de personnes, ça a été annoncé partout la semaine dernière, qui sont concernées par cela, et une augmentation du pouvoir d'achat en termes de cotisations sociales pour les salaires les plus bas.
Sauf que la personne qui fait ces critiques, c'est la personne chargée de mettre en œuvre cette politique de l'offre. Or, lui demande maintenant une inflexion majeure de la politique
du
gouvernement.
Est-ce qu'il lui a été refusé de faire une inflexion quand on aborde la question qui était en même temps souhaitée par le Premier ministre sur les monopoles? Qui porte cela, si ce n'est Arnaud Montebourg? Et ça va dans le bon sens pour redonner là aussi du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Voilà quelles sont les réalités.
Mmh. Et sur l'Allemagne, il ne faut pas s'aligner sur les axiomes idéologiques de la droite allemande. Est-ce que ce n'est pas préjudiciable aux relations entre Paris et Berlin?
Mais il ne faut pas, et d'où le refus, si vous me permettez, du président, d'être dans une confrontation seulement entre la France et l'Allemagne. La France porte une parole forte. Elle est incarnée, exprimée par le président de la République, conseil après conseil, portée par l'ensemble des ministre autour du Premier ministre sur cette question. Il n'y a pas à rechercher une confrontation bilatérale avec l'Allemagne, mais à faire et à continuer à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire à demander à l'Europe, ça a été exprimé d'ailleurs par le New York Times la semaine dernière, en termes de changement de politique économique au sein de l'Union européenne pour que l'Europe redevienne et soit aussi une partie du monde qui retrouve de la croissance, parce que ça n'intéresse pas que l'Europe et les pays européens, c'est ce que nous portons, dont des avancées de la BCE en termes de politique monétaire, une belle aujourd'hui qui peut éventuellement nous avantager de l'euro en termes d'exportation, des annonces qui sont faites en termes de politique d'investissement, on verra ce que ça donnera, mais des expressions qui ont eu lieu de manière très forte à l'échelle européenne.
Pour l'instant, voilà. Le gouvernement de la Banque Centrale Allemande a dit niet.
Oui, mais la Banque Centrale Allemande, et là, ce n'est pas, on ne parle pas de la Banque Centrale Allemande, on parle de la Banque Centrale Européenne. Mmh. Donc, la France dit des choses, exprime des choses très fortes, elles sont portées à nous de trouver des alliés et ils existent.
On commémore aujourd'hui la libération de Paris, Kader Arif, la fin de l'occupation allemande dans la capitale. C'était il y a 70 ans, le 25 août 1944. Pourquoi avoir choisi de célébrer cet événement en particulier ?
parce que célébré chaque année, mais j'étais déjà hier soir, 24 août, on oublie que la libération de Paris, et quand je disais hier soir qu'un pays se grandit chaque fois qu'il fait qu'il n'y a pas de mémoire oubliée, c'était la Nouébé.
Il est célébré avec un peu plus de faste cette année.
Des Espagnols qui ont libéré Paris, qui sont arrivés les premiers dans Paris le 24 août au soir. Donc, nous avons fait ça avec le maire de Paris, Anne Hidalgo, l'ensemble des associations qui étaient présentes. Paris, pour plusieurs raisons, Paris s'est libérée elle-même. Paris, ça a été une insurrection de ses habitants, qui avait commencé le 10 août, les cheminots parisiens qui avaient commencé cela. Paris, c'est la libération de la France, quand on libère la capitale, mais plus encore la libération du monde, après 4 ans d'occupation. Les cloches, les tocsins résonnaient à travers le monde, parce que libérer Paris, c'était la paix qui revenait, et c'était le fascisme et la barbarie nazie qui disparaissaient. Paris, ça représente, au-delà de ce qu'elle est, une ville lumière, mais une ville qui est porteur de ce qui est la France, ce pays des droits de l'homme et des valeurs universelles. Paris, c'est rappeler que Paris a été libéré aussi par des gens venus d'horizons différents.
Dans la deuxième DB, vous voulez dire ?
Dans la deuxième DB.
Celle du général Leclerc.
Des couleurs différentes, mais aussi Paris libéré par des hommes qui étaient engagés dans la résistance, des antifascistes italiens, des antifascistes allemands qui étaient là depuis longtemps. C'est aussi ça. Donc voilà, il fallait et il faut rappeler cela. Chaque ville, chaque libération de la ville a son histoire singulière, sa particularité. Paris a cette particularité et en même temps, c'est une des capitales du monde.
On ne sait peu qu'avant l'arrivée des troupes françaises et américaines à Paris, comme vous le rappeliez, il y a eu une insurrection populaire. Est-ce que selon vous, on en fait assez aujourd'hui pour toucher les jeunes à ce sujet ?
Écoutez, moi je suis assez content de ce qui s'est fait pendant ce cycle mémoriel, c'est-à-dire cette appétence de nos concitoyens à la garde de la mémoire. Le pays se pose des questions quant à ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il peut devenir. Et de belles initiatives ont été prises sur le plan pédagogique, dans les collèges, les écoles, les lycées. Et moi, je me félicite. Mais je crois qu'on peut aller encore plus loin en termes de transmission, sur le travail, sur les manuels scolaires en particulier. C'est des choses que nous avons engagées avec le ministère de l'Éducation nationale, qui vont prendre certainement du temps, mais qui vont dans le bon sens.
Ça se traduit comment, concrètement, dans les manuels scolaires ?
Ça se traduit comment ? Je pense qu'il faut rappeler ce qui... des parties de l'histoire, ce qui a été réellement la résistance, peut-être avec un peu plus de force. Quelle était-elle ? Ce qu'était l'armée d'Afrique, des choses parfois un peu oubliées, quoi, ou sur lesquelles on passe trop vite.
À ce propos de l'armée d'Afrique, il y a eu un alignement des pensions entre les anciens combattants français et ceux d'origine étrangère. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation des deux côtés, entre Paris et l'autre côté de la Méditerranée, du point de vue des anciens combattants, vous semble égalitaire, totalement égalitaire ?
Écoutez, elle est égalitaire avec beaucoup de retard sur le plan des dossiers. Moi, quand je suis arrivé, c'était des milliers de dossiers qui n'étaient pas traités, des gens qui n'étaient peut-être pas informés de leurs droits en termes de décristallisation, c'est ça que vous évoquez. La décision que j'ai prise a été de prolonger d'un an, puisqu'il y avait 3 ans de délai pour déposer le dossier, jusqu'à fin 2013, de prolonger d'un an ce délai de forclusion. Donc jusqu'à fin 2014, ces anciens combattants de l'autre côté de la Méditerranée, sur l'Afrique subsaharienne, pourront continuer à déposer leur dossier, donc à ouvrir leurs droits. C'est 12 millions d'euros qui ont été engagés pour cette prolongation d'un an. Et en même temps, une communication qui est faite par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Algérie, au Maroc, en Tunisie et sur l'Afrique subsaharienne. Nous sommes en train de combler ce retard, mais c'est les mêmes droits pour les mêmes combattants.
Merci beaucoup, Kader Arif.